Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Marlène et nous allons vous parler de Pinterest. Comment utiliser cette plateforme dans votre stratégie de communication et par où commencer pour se lancer. Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode du pod. Et oui, déjà, aujourd'hui nous allons parler de Pinterest pour l'occasion. Et pour aborder ce sujet, je ne suis pas avec Brian aujourd'hui. Brian est absent, mais ne vous en faites pas. J'ai une invitée de qualité à mes côtés puisque j'ai Marlène de l'agence que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre pour le tout premier épisode du pod et aussi l'épisode de Nouvelle Année. Donc bonjour Marlène.
Bonjour Gwen.
T'es contente d'être avec nous aujourd'hui ?
Au taquet, comme d'hab.
Eh ben c'est parfait. Donc comme je disais aujourd'hui, on va parler de Pinterest. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet ? En fait, selon nous, c'est un réseau social qui est beaucoup trop sous-estimé. L'atout de Pinterest, donc, que n'ont aucune des autres plateformes, c'est l'activité de ses utilisateurs. En effet, là où sur les autres réseaux sociaux, l'utilisateur est relativement passif et consulte ce que l'algorithme lui propose, sur Pinterest, l'utilisateur, là, lui, il va être très actif, puisqu'il va utiliser cette plateforme plutôt comme un moteur de recherche. Et c'est là toute la différence. Et en effet, cette plateforme est une vraie mine d'or que toutes les deux, on adore. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est toi qui es en face du micro aujourd'hui. Donc une vraie mine d'or pour trouver des idées en tout genre. Par exemple, des idées de décoration, de recettes et même apparemment des idées pour créer une chambre pour son chat. Bref, tout ce qu'on veut. Donc, même si vous n'avez pas encore investi cette plateforme, mais que vous y pensez, ou même vous ne voyez peut-être pas vraiment l'intérêt pour l'instant, ou vous avez envie de vous lancer, mais sans trop savoir quoi y faire, donc pas de panique, on est là aujourd'hui pour vous aider à y voir plus clair, et du coup, Marlène nous a préparé tous ses meilleurs conseils.
C'est ça.
Bon alors, pour commencer... on va donc mettre un petit peu les bases comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Pinterest ?
Oui, alors effectivement, comme tu le disais en introduction, Pinterest, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un moteur de recherche au moins tout autant qu'un réseau social et surtout un moteur de recherche d'inspiration visuelle. Donc même s'il y a une surcouche sociale avec un système de commentaires, de partages, de tableaux collaboratifs, etc., Pinterest, c'est avant tout un endroit sur lequel on va pour faire une recherche. On cherche une réponse à un besoin, donc ce besoin, ça peut être effectivement comment décorer une chambre pour chat ou aménager un espace chambre pour chat chez moi. Et à partir de là, effectivement, les utilisateurs vont faire des recherches pour trouver de l'inspiration. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un chiffre qui est intéressant, je trouve, à l'échelle France, c'est que 53% des utilisateurs français trouvent que Pinterest les influence lorsqu'ils cherchent des produits. Donc, en tout cas, que ce soit dans une logique d'achat derrière ou dans une logique de recherche d'informations, ce chiffre, il est vraiment intéressant parce qu'il montre que Pinterest a vraiment un impact dans les actions que vont mener derrière les utilisateurs, en fait, tout simplement parce qu'ils sont déjà dans une logique de recherche. Comme quand on fait une recherche dans Google, forcément, ça va convertir plus facilement derrière parce que les gens savent déjà qu'ils veulent acheter ou concrétiser quelque chose. Alors que sur les autres réseaux sociaux, on va être plutôt sur de la découvrabilité, parce qu'on est plus dans une logique sociale avant tout.
Oui.
Donc, voilà. Après, sur le fonctionnement de Pinterest, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire que je rentre dans les détails, mais en fait, c'est un peu comme... pour le coup d'autres réseaux sociaux où on a un système de compte où chaque compte peut à la fois publier, donc sauf que ces publications-là, on les appelle des épingles, et que c'est des publications qui sont forcément illustrées, donc soit par des photos, soit par des vidéos. Il y a différents formats d'épingles, on pourra y revenir. Et ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est qu'une épingle Pinterest, donc une publication sur Pinterest, c'est en fait une porte d'entrée vers une page web. En fait, chaque épingle est liée, sauf du coup les épingles idées, mais voilà, ça c'est un format un peu spécifique, mais les épingles en tout cas sont liées à une page web, ce qui fait que quand on consulte l'épingle, on peut très facilement, en fait, via un deuxième clic sur l'image, atterrir direct sur une page web. Donc c'est vraiment une notion qui est importante aussi pour bien comprendre ce réseau social, c'est que chaque épingle, c'est vraiment une porte d'entrée, en fait, vers une page web, et que donc un des gros intérêts de Pinterest, c'est justement d'être un apporteur de trafic, de pouvoir rediriger du trafic vers le site web. Donc ça, c'est plutôt pour la partie publication. Et puis, comme n'importe quel autre réseau social, il y a aussi une fonction mur, en fait, sur laquelle on va avoir des suggestions de publication en fonction de les comptes auxquels on est abonné, des publications avec lesquelles on a l'habitude d'interagir, de ce qu'on a nous-mêmes épinglé dans des tableaux. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les publications sur Pinterest, elles sont en fait classées, ou en tout cas, on peut les classer dans des espèces de dossiers de publication qu'on appelle des tableaux, vu que voilà, Pinterest vient à l'origine des tableaux sur lesquels on épingle, des tableaux en liège à l'ancienne sur lesquels on épingle les petites cartes postales, le faire-part de naissance, etc. Donc dans le même esprit, on a le tableau, donc le board en anglais, et les épingles qu'on vient mettre dessus, donc les pins ou pine, je sais pas comment on dit en anglais, plus à l'aise que moi sur la question.
Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, plus sous l'angle d'une marque, quelle est l'utilité d'utiliser Pinterest donc dans sa stratégie de communication?
Ouais. Du coup, comme je le disais, en fait, l'un des principal intérêt de Pinterest, c'est vraiment d'être un apporteur de trafic, en fait. À la fois de permettre de découvrir des solutions, donc d'apporter des réponses assez claires et en tout cas synthétiques sous un format visuel, par exemple, type une infographie, une checklist des choses à garder en tête pour jardiner, une planche d'inspiration pour sa chambre pour chat, enfin voilà, des choses comme ça. Donc apporter des réponses directes à un internaute ou générer du trafic vers son site web. Donc c'est... Pour moi, c'est vraiment les deux principaux intérêts, ça. C'est effectivement pouvoir se montrer comme une marque qui peut faire office de référence et vraiment informer et apporter de la valeur à ses clients, ou s'en servir vraiment comme un générateur de trafic vers, par exemple, un blog d'entreprise ou un site e-commerce sur lequel on va ensuite chercher à convertir, générer des prospects... générer des ventes, générer des inscriptions et newsletters, enfin voilà. Après, ça dépend des objectifs commerciaux de chaque marque, quoi.
Ça marche. Et alors, justement, moi, je me demandais, est-ce que finalement, aller sur Pinterest dans sa stratégie de communication, ça concerne toutes les entreprises? Enfin, en termes de secteur d'activité,
ouais,
j'entends.
En termes de secteur d'activité, alors, là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, une première chose, c'est que 60% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Donc, si les marques ont une cible féminine, c'est sûr qu'il y a un énorme intérêt à aller sur Pinterest. Néanmoins, ça a pondéré parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la plateforme. Donc, il y a, je sais plus, 2-3 ans, les proportions n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. C'était vraiment 70, voire 80% de femmes sur Pinterest. Là, les derniers chiffres que Pinterest a communiqué, c'est qu'il y avait eu plus 40% d'hommes sur la plateforme en 2022. Donc, on est quand même sur une croissance importante voilà, du public masculin sur ce réseau-là. Mais bon, actuellement, il y a encore 60% de femmes. Donc c'est une donnée à avoir en tête. Et c'est un réseau qui est particulièrement pertinent pour les entreprises qui travaillent en B2C, donc qui cherchent à vendre ou informer ou à offrir des services au grand public plutôt qu'aux professionnels. Maintenant, mon point de vue sur la question, c'est que plus qu'un secteur particulier, ce qui va compter, c'est la capacité de l'entreprise à produire du contenu de qualité. En fait, voilà, je parlais de B2C, mais on peut tout à fait envisager qu'une entreprise de service qui est en capacité de vraiment... informer sur, je sais pas, par exemple, c'est une entreprise qui propose du relooking de bureaux pour les entreprises, ben, si elle est en capacité de donner des conseils et de générer des contenus intéressants là-dessus, donc des planches de tendance, des articles de blog sur, je sais pas, les trois choses à penser pour avoir une bonne circulation dans vos bureaux, ou voilà, mais qu'elle est capable de générer du contenu informationnel, elle a tout son intérêt à être sur la plateforme. Donc voilà, les entreprises qui ont cette capacité-là à générer du contenu informationnel, générer de la valeur derrière leur contenu. Et aussi, quand même, faut pas se leurrer sur la question, les entreprises e-commerce, parce que Pinterest, on est effectivement dans une logique de recherche. On sait que les utilisateurs achètent après avoir consulté après avoir vu ou découvert des produits sur Pinterest. Et que derrière, on génère du trafic. Donc finalement, voilà, c'est comme je disais, c'est une porte d'entrée. C'est particulièrement une porte d'entrée pour les sites e-commerce. Et d'ailleurs, en termes de fonctionnalité, c'est une des plateformes sociales qui a le plus avancé sur la question, avec des épingles qui valorisent directement les produits, où voilà, on peut acheter très rapidement, et qui a développé aussi des formats publicitaires spécifiques pour valoriser des catalogues produits. Et voilà, donc c'est en tout cas, pour moi, une plateforme... Enfin, en e-commerce, en fait, la question, pour moi, elle se pose même pas. C'est une plateforme qui est quasi incontournable, quoi. C'est limite un des premiers réseaux à investir, en fait.
Et c'est vrai que tu parlais des formats publicitaires, mais moi, je trouve que, pour être utilisatrice à titre perso de Pinterest, je trouve que les pubs sur Pinterest, elles sont très bien fondues dans le flow des épingles qu'on peut consulter, et c'est beaucoup moins intrusif que sur d'autres plateformes.
Oui, effectivement, parce que les formats d'épingles même, en fait, sont déjà pensés pour être clé en main. Donc, quelque part, quand tu fais des publicités derrière, ben, le côté clé en main, avec t'as déjà les produits qui sont épinglés, avec toutes les infos sur le produit, le prix, la disponibilité catalogue, machin, etc. En fait, ça passe très, très bien. Et c'est effectivement aussi, côté annonceur, un outil qui est assez puissant, puisqu'on peut vraiment lier son site e-commerce à Pinterest pour avoir tout son catalogue produit dans un onglet directement sur son compte. On peut créer des épingles dynamiques qui reprennent toutes les infos des fiches produits de son e-commerce. On peut aussi créer des publicités spécifiques, les shopping ads, des shop the look avec des sélections de produits sur une image, etc. C'est vraiment aussi quelque part... une fois qu'on a passé un peu la barrière technique, assez facile, finalement, pour les annonceurs de faire des publicités aussi qui convertissent bien, quoi.
Ça marche. Du coup, pour une marque qui a compris l'importance du sujet et qui a envie de se lancer sur Pinterest, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu les étapes clés à suivre, par quoi commencer exactement ?
Pour moi, il y a vraiment trois choses à avoir en tête. Du coup, la première, c'est le plan technique. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on va créer un compte sur Pinterest, on va avoir un compte perso à la base, un compte personnel, un compte d'utilisateur. Donc, de bien penser à convertir ce compte en compte professionnel. Et plus que cela, le faire certifier et le lier à son site web. Donc en fait, c'est un peu comme pour pas mal d'autres réseaux, on récupère des métadonnées qui sont fournies par Pinterest, qu'on met sur son site et qui permettent de vraiment faire la liaison entre son site web et le réseau. Et de l'autre côté, sur son site web, l'idéal, c'est aussi d'ajouter le fameux bouton Pine It, qui permet de réépingler, enfin d'épingler facilement pour les utilisateurs les visuels qu'on a sur son site sur Pinterest. Donc ça, c'est pour la partie technique, de bien penser à optimiser ce plan-là, de lier son site à Pinterest pour permettre des passerelles et que tout soit bien optimisé. Ensuite, il y a vraiment un aspect référencement naturel qui est important sur Pinterest. On en parlait, en fait, c'est un moteur de recherche, et comme tout moteur de recherche, il faut donc optimiser son référencement. Donc pour optimiser son référencement, c'est vraiment comme pour du référencement Google, du SEO, ou voilà, même du référencement payant. L'idée, c'est d'avoir une liste de mots-clés, donc des mots-clés qui correspondent à sa niche, aux produits qu'on veut vendre, son secteur d'activité, aux services que l'on offre, des mots-clés qui parlent à sa cible et qui décrivent bien son activité. Et en fait, d'aller placer ces mots-clés dans différents emplacements sur Pinterest. Donc le premier, ça va être le nom du compte. Donc en général, bien penser à nommer son nom de marque, voire aller plus loin et décrire en intégrant des mots-clés, par exemple, je sais pas, 4 room, aménagement de chambre pour chat, voilà. On va rester sur cet exemple-là qui est un peu cocasse, mais qui montre bien effectivement ce qu'on peut faire sur Pinterest, donc dans le nom du compte, dans la description du compte, dans la bio qu'on peut avoir comme sur un compte Instagram ou sur une page LinkedIn. On va aussi utiliser ces mots-clés dans les albums qu'on crée, donc dans les boards. Par exemple, si dans mes chambres pour chat, j'ai les thématiques qui reviennent, ça va être hamac pour chat, ça va être arbre à chat, etc. Donc avoir tout simplement des albums qui correspondent aussi à ces mots-clés-là. Et puis après, il y a bien sûr, et c'est ce travail-là qui est le plus long et en même temps le plus essentiel, ça va être le travail d'optimisation de chaque épingle, en fait. Donc de bien mettre ces mots-clés dans le titre de l'épingle, d'ajouter une description qui correspond bien à ce que l'image montre tout en intégrant des mots-clés, renvoyer vers la bonne page de site web, etc. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect référencement naturel. Bien penser ces mots-clés et essayer de les intégrer dès le début à la création de son compte, parce que c'est beaucoup plus rapide de faire ça dès le démarrage plutôt que de se dire au bout de 2 ou 3 ans, alors qu'on a utilisé Pinterest comme une banque d'images, ah ouais, mais finalement voilà, j'ai pas trop de trafic, mon compte il vivote, y a pas d'abonnement, y a pas d'impression, qu'est-ce que je peux faire, et repasser sur les 300 ou 400 épingles qu'on a mis sur son compte, c'est un travail titanesque. Donc essayez dans la mesure du possible de bien avoir ça en tête dès le démarrage. Donc ça, c'est le deuxième plan, le plan vraiment SEO, référencement naturel. Et le troisième plan, c'est celui du contenu. Donc pour créer du contenu, l'idéal, c'est aussi d'avoir dès le début en fait des visuels qui sont optimisés pour Pinterest. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur Pinterest, on consulte principalement du contenu au format vertical. Donc pas forcément du 9-16 comme sur des Reels, sur TikTok, dans les stories, etc. Mais au moins sur un ratio de tiers un tiers. Donc voilà. Donc ce qui va être important, c'est d'avoir des beaux visuels et des beaux visuels donc avec des photos de qualité, des produits bien mis en avant, pas des choses toutes pixelisées ou des templates vus et revus ailleurs, ou un template qui est issu de d'une publication Instagram parce que vous vous êtes dit que quitte à l'avoir fait pour Instagram, autant l'envoyer sur Pinterest. Mais voilà, des contenus vraiment pensés pour Pinterest sur ce format 2/1/3, et bien avoir en tête que l'objectif d'une épingle, ça va être de donner envie d'en savoir plus, donc de cliquer, ou de le garder de côté, donc de réépingler, en gros, de stocker dans un tableau. Donc c'est vraiment les deux objectifs. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, en fait, ça va être, comme pour tous les réseaux, finalement, ça va être de se créer 2-3 templates de publication pour valoriser ses propres contenus, en tout cas. Par exemple, j'ai un blog, je vais avoir une typologie d'épingle qui présente le thème de l'article de blog que j'ai publié avec une belle image, un titre, une catégorie, la présentation de la plus-value, par exemple, sans idée pour aménager votre chambre pour chat, enfin voilà. Ça peut être un template voilà, avec une planche d'inspi, une checklist, ça peut être des infographies, ça peut être voilà, des choses qu'on a envie de garder de côté, quoi. Donc soit qui donnent envie de cliquer, soit qu'on a envie de garder de côté. Et sur le plan du contenu aussi, quand même un élément à ne pas négliger, même si c'est très important d'épingler du contenu qui nous est propre, donc du contenu qui produit par la marque qui elle-même investit Pinterest. Pinterest étant un réseau social, il faut quand même avoir en tête aussi que il faut pas publier que son contenu à soi, quoi. Donc dans ces tableaux, essayer d'avoir quand même une répartition entre du contenu qui nous appartient et du contenu qu'on a été chercher sur la plateforme. Donc si je reste dans les chambres pour chats, voilà, je peux épingler mes produits, je peux épingler des planches qui présentent les 5 arbres à chats les plus pratiques au monde ou les plus confortables pour les chatons ou je ne sais quoi, et derrière aller chercher sur la plateforme des photos d'intérieur où il y a des arbres à chats, où des gens ont fait des do-it-yourself autour des arbres à chats, etc. C'est vrai que le DIY, c'est aussi une grosse tendance qui cartonne bien, voilà. Donc ça peut être une bonne idée aussi de partager des tutos, voilà. Tout ce type de contenu qui est vraiment prêt à l'emploi, quoi, en fait.
Ça marche. Bon, super, du coup, pour les 3 grandes étapes clés.
Ouais. D'ailleurs, j'en profite juste avant que tu continues. On a fait un article sur le blog de l'agence, donc Keep It Simple, à ce sujet-là. On va plus loin, d'ailleurs, sur les bonnes pratiques pour les entreprises qui veulent se lancer, où il y a vraiment un tuto très détaillé, step by step. Donc, si vous voulez vous lancer demain, voilà, n'hésitez pas à aller consulter cet article. Vous retrouverez toutes les astuces.
C'est toi qui l'as rédigé, hein.
Ben, bien sûr.
Évidemment.
Auteur de talent, s'il en est.
Super. Eh ben, on mettra le lien, du coup, dans les notes de podcast. Donc oui, du coup, j'allais te demander, une fois que tu as mis tout ça en place, vient forcément le moment d'analyser tes performances. Petite pensée pour Brian. du coup, comment tu... Enfin, quels sont les indicateurs que tu vas suivre sur Pinterest?
Alors, sur Pinterest, pour moi, le principal indicateur, enfin, ça va dépendre encore une fois du business, mais ça va être le trafic et où les ventes qui sont générées depuis Pinterest. Donc l'idéal, c'est d'avoir configuré ça plutôt du côté analytics, du coup plutôt du côté de son outil de trafic, de suivi de trafic, donc de web analytics. Mais on peut aussi regarder du coup les clics sortants depuis le compte Pinterest, si jamais on n'a pas fait cette configuration. Après, côté vente... sont passés par du payant, on n'aura pas forcément l'info, mais en tout cas, regardez voilà, le trafic ou les ventes générées depuis Pinterest. Donc ça, c'est pour moi la donnée principale, parce que c'est vraiment l'objectif principal d'aller sur Pinterest, c'est de générer du trafic ou de générer des ventes. Plus que d'être sûr de la découvrabilité, de la notoriété. Ça va aussi être de regarder en fait les enregistrements depuis les épingles, donc le nombre de personnes qui ont enregistré les épingles sur leur compte, dans leur tableau, parce que ça donne une bonne idée aussi de l'intérêt qu'on montre pour le contenu qui est produit sur le compte. Et après, il y a une donnée un peu plus quali qui va être les épingles qui fonctionnent le mieux. Donc regardez effectivement ces épingles-là qui sont le plus enregistrées, les épingles qui génèrent le plus de trafic, qui génèrent le plus de clics vers le site, etc. L'idée étant derrière de pouvoir s'en servir tout simplement pour produire plus de contenu de ce type-là. Par exemple, j'ai fait que 2 infographies, mais en fait, elles représentent 80% du trafic qui est généré sur mon site web. Bon, ouais, ok, j'ai quand même plutôt pas mal intérêt à continuer de créer des infographies. Et c'est aussi, en fait, ces épingles-là qu'il peut être très intéressant de sponsoriser derrière, parce que finalement, on sait qu'elles présentent déjà un intérêt pour les utilisateurs. Et donc, derrière, autant les amplifier celles-là plutôt que de chercher à créer des publicités à partir de zéro, quoi. Donc voilà, les indicateurs, pour moi, c'est ça, c'est trafic et ou ventes générées, donc les clics sortants depuis les épingles, le nombre d'enregistrements et les épingles qui fonctionnent le mieux. plus que le nombre d'abonnés qui, en fait, veut pas dire grand-chose sur Pinterest, même si, bien sûr, c'est un signal, dans le sens où vous avez beaucoup d'abonnés, bon, bah, forcément, c'est qu'a priori, votre compte, il est joli et qu'il intéresse les gens. Mais est-ce que c'est vraiment votre objectif, en fait, sur Pinterest ?
Ouais, c'est clair.
Voilà.
Super. Bah écoute, je te propose de passer à la partie conseils, astuces en tout genre. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager tes bons conseils, tes bonnes astuces pour performer, cartonner sur Pinterest ?
Ouais. Alors, j'ai noté pas mal de choses. La première, c'est de vraiment créer des contenus qui s'ancrent dans la logique inspirationnelle de la plateforme. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué en filigrane jusqu'à maintenant, mais vraiment de réfléchir à produire du contenu qui est informationnel, qui est prêt à consommer. Donc on est vraiment dans du snack content. L'objectif, ça va être de pousser à l'enregistrement, donc ça peut être des tutos, comment relooker son entrée, comment créer une jardinière avec des palettes, voilà. Ça va être des infographies. Donc je me suis notée par exemple des petites choses que moi j'ai épinglées récemment, donc l'anatomie d'un community manager, 7 conseils pour arrêter de procrastiner, enfin voilà, des petites choses comme ça qu'on aime bien garder sous la main. Ça va être des sélections, par exemple 15 séries à binge-watcher cet été, ou les 25 films de Noël les plus chouettes, voilà, la checklist du jardinier tel mois, enfin voilà. Oui, je prends des exemples qui
me passionnent,
voilà, qui me passionnent à titre personnel, mais on peut imaginer ça en fait, enfin voilà, dans plein de secteurs, et on peut le décliner sur plein d'idées. Donc le premier, ça va être voilà, tout ce qui est informationnel, donc de créer du contenu vraiment prêt à consommer. Et ensuite, de aussi créer du contenu qui donne envie d'en savoir plus. Donc là, on va être plutôt sur ce qu'on appelle des appâts, en fait, des visuels qui donnent envie de cliquer pour ensuite aller valoriser finalement des contenus longs qu'on produit. Donc on parle de génération de trafic depuis tout à l'heure sur un site web ou vers un blog, mais on peut aussi servir Pinterest pour générer du trafic vers son podcast, vers des vidéos plus longues sur YouTube. En tout cas, s'en servir pour transformer ces contenus longs en contenus courts, en tout cas les décliner en contenus courts qui vont inciter à aller consulter le contenu long derrière. Donc ça va être créer des contenus, des miniatures de présentation avec des appels à l'action, des extraits, des citations, des freebies à télécharger. Par exemple, si j'ai un article sur comment se lancer sur Pinterest, je peux très bien imaginer que sur mon blog, j'ai un petit kit à télécharger avec 3 templates visuels. Voilà, ce genre de choses, donc ce qu'on appelle des freebies. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Créer du contenu qui s'ancre dans la logique. Ne pas chercher à réépingler le contenu des autres réseaux sociaux en disant que ça va fonctionner, ou juste épingler des photos à tire-larigot. Ça... Voilà. Mmh. Ouais, vous allez avoir du passage sur votre compte, mais vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc, une astuce, pour le coup, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de réépingler son contenu dans plusieurs tableaux. En fait, sur Pinterest, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on épingle souvent, et mieux ça marche. Donc je vais donner des chiffres qui vont peut-être un peu faire peur, entre guillemets, mais là où sur des autres réseaux sociaux, on peut démarrer une présence social media avec une à deux publications par semaine, même si le phénomène est le même, plus on publie, enfin plus on est régulier, plus on publie régulièrement, meilleures sont les performances, en tout cas plus les comptes montent vite. Sur Pinterest, on va parler de plusieurs épingles par jour. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc en tout cas, on est sur encore autre chose en termes de volume. Donc comme il faut publier très régulièrement, une petite astuce, en fait, c'est de réépingler son contenu dans plusieurs tableaux. Donc par exemple, on se crée un tableau arbre à chat, ou nos arbres à chat, voilà, nos produits, dans lequel on épingle nos propres produits. Et ensuite, on va aller réépingler ça dans nos différents tableaux. Donc un tableau inspiration chambre pour chat, un tableau sur plutôt comment, enfin je sais pas, qui par exemple valorise des arbres à chat dans des intérieurs, un tableau qui montre des arbres à chat DIY, enfin voilà. En tout cas, on va aller réépingler nos épingles dans d'autres tableaux pour finalement leur donner une seconde vie, quoi. Donc ça permet d'avoir ce volume en fait d'activité ouais, important sur Pinterest assez facilement. Donc faut pas faire que ça, bien évidemment, mais voilà. Là, effectivement, je m'étais noté un autre exemple sur si on est une marque de chaussures qui partage 6 façons de porter des mocassins camel, on peut ensuite l'épingler dans nos produits, dans un tableau mocassin, dans un tableau chaussures camel, dans un tableau exemple de look. Voilà. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est une petite astuce à ne pas négliger parce qu'elle peut permettre de faire gagner du temps. Donc le troisième, c'est justement de se fixer une fréquence d'épinglage qui est importante. Comme je le disais, certains spécialistes évoquent jusqu'à 15 contenus par jour. Donc, voilà.
Faut commencer quelque part, mais OK.
Voilà, faut commencer quelque part. Mais en tout cas, les spécialistes voilà, donnent cette idée de volume-là. On n'est pas... Enfin, bien évidemment, quand on commence, on ne va pas tout de suite être sur du 15 épingles. Peut-être un petit peu au démarrage du compte, parce que le temps de l'alimenter, le temps d'épingler, le temps de qualifier son feed... Enfin, voilà, on va avoir un rythme un peu soutenu. Mais... Moi, ce que je conseille vraiment sur Pinterest, c'est plutôt de se fixer en fait des plages pour épingler en fait, de se dire voilà, je me bloque un peu de temps pour finalement programmer mes épingles je sais que je programme voilà, je sais pas 10 épingles sur la semaine et au moins elles sont programmées, j'ai plus à y penser et voilà, je suis sur un volume quand même, j'ai au moins une épingle par jour qui va sortir. Si vous vous lancez vraiment et que vous n'avez pas cette quantité-là d'informations, vous bloquez sur au moins un rythme de une épingle, deux épingles par semaine, c'est vraiment le stricto minimum, mais en tout cas, voilà. Ne pas hésiter à se bloquer des plages et ce qui peut, enfin, et là où finalement ça peut être assez facile quand on prend le pli, c'est que sur Pinterest il y a tellement un pléthore de contenus qui sont déjà créés et sur mais toutes les thématiques que finalement atteindre cette fréquence ça peut faire un peu peur, mais c'est pas si terrible parce que finalement on va vite trouver du contenu tiers en fait. Effectivement, quand je dis 15 épingles par jour, c'est évident, c'est pas des épingles à vous, quoi. Vous n'allez pas faire 15 infographies par jour, c'est juste pas possible, quoi. À moins d'être une équipe de 80 personnes dédiées à Pinterest, c'est pas envisageable. Mais par exemple, ça peut être si vous avez beaucoup de contenu, vous faites une épingle par jour des vôtres, en sachant que vous pouvez les repartager dans d'autres tableaux, et puis derrière, 2, 3, 4 contenus autres que vous pouvez trouver, quoi. Et puis bien prendre ce pli à chaque fois que vous voyez un truc intéressant aussi sur un autre site, hop, l'épingler dans les tableaux qui vont bien sur votre compte, quoi. Ça peut aller vite une fois qu'on y a pris goût.
Ouais, ça marche.
Et je me suis noté un quatrième point, c'est de regarder chaque début d'année Pinterest fait un guide en fait qui s'appelle les Pinterest Predicts, où en fait, ils nous donnent les tendances qui vont cartonner sur l'année à venir, sur la base de, déjà, quelles sont les tendances qui ont émergé sur l'année passée. Donc, tu parlais des champs pour chats, en fait, ça vient pas de nulle part, c'est que oui. C'est une des tendances qui cartonne sur Pinterest. Donc, voilà, il y a des Pinterest Predicts qui peuvent vraiment aider à savoir comment orienter son contenu, qu'est-ce qui, dans notre activité, peut aussi inspirer et intéresser les utilisateurs. Et un deuxième point, c'est qu'il y a énormément d'études de cas dans la doc business de Pinterest. Vraiment, tout type d'études de cas, quels que soient les objectifs de marque, quels que soient les secteurs d'activité, qui montrent quelles sont les stratégies qui sont adoptées par les entreprises sur la plateforme, que ce soit publicitaire, que ce soit natif. Et en fait, il y a plein d'idées de contenu, de bons contenus à piocher à l'intérieur. Et en fait, rien que ça, déjà, c'est une super source d'inspiration pour créer pour ces contenus. Ouais. Pour l'année, ouais. Voilà.
Ça marche.
J'étais assez bavarde sur les questions.
Et est-ce que, à l'inverse, t'as des erreurs à ne pas commettre sur Pinterest ?
Oui, tout à fait. La première à laquelle je pense, en tout cas, c'est d'épingler toute sa banque de photos en une fois et de penser que ça va suffire. Donc, par exemple, je sais pas, je suis un acteur du tourisme. J'ai déjà des photos super belles parce que je bosse avec des photographes, voilà. Et ben, je me bloque un jour, je crée mon compte Pinterest, une semaine, parce qu'un jour ça va être un peu limite, mais je me bloque une semaine, et pendant une semaine, je crée mon compte Pinterest, je prends ma banque photo, j'upload toutes mes photos, je les classifie, et voilà, c'est très bien, mon travail s'arrête là, et ça va marcher tout seul, parce que j'ai des belles photos et que j'en ai beaucoup. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que faut vraiment avoir une routine, faut créer régulièrement des nouveaux contenus, faut réépingler régulièrement, voilà, il faut vraiment rester actif. Et bien sûr, avoir des formats adaptés. Donc, télécharger juste vos photos en format paysage ou en format 9-16 et voilà.
En soi, ça peut marcher les photos sont adaptées au format Pinterest et que, au lieu de toutes les uploader d'un coup, on les étale en programmant sur plusieurs mois.
Oui, mais faudra, enfin, quoi qu'il en soit, faudra quand même le coupler avec des visuels plus incitatifs, quoi. Oui. Parce que sinon, on va effectivement générer des réépinglages, mais pas de trafic vers le site.
Ouais.
Donc, potentiellement, pas de valorisation de notre offre touristique non plus.
Ouais, ouais.
Bon, après, un acteur du tourisme, on est quand même sur un contenu qui est très inspirationnel. Donc déjà, rien que si on bookmarque une belle plage de Loire-Atlantique, ça donne envie d'y aller, quoi. Mais ça peut être moins le cas pour d'autres secteurs. Donc en tout cas, ça, c'est vraiment une erreur à pas de commettre. Pensez que on y va une fois, on met la quantité de visuel et puis ça fonctionne tout seul. Ça, c'est... Voilà. Non. Ça ne marchera pas. Ensuite, c'est renvoyer vers des pages de contenu non pertinentes. Donc là, par exemple, avoir une super infographie. Donc j'ai fait une super infographie et elle est enregistrée plein de fois, etc. Mais derrière, en fait, ça pointe vers la page d'accueil de mon site web.
Oui.
Bah non. Non, derrière, en fait, il faut pointer sur un contenu qualitatif en lien avec cette infographie. Donc, si c'est sur l'anatomie du community manager, bah, ça va être sur un article. Qu'est-ce qu'un community manager? Quelles sont les compétences? Voilà. Enfin, vraiment avoir un contenu vraiment qui est approprié. Et dans une logique e-commerce, c'est pareil. En fait, si on valorise un produit, bon, je reste sur les mocassins camel, par exemple, on valorise des mocassins camel, on renvoie soit vers un article qui présente des façons de porter les mocassins, soit vers la fiche produit qui va bien. Enfin, on va pas renvoyer vers la page d'accueil d'e-commerce. Ça, c'est... Et pour autant, on le voit très souvent. Très souvent. Donc ça, c'est vraiment... Non, voilà. On va avoir du trafic, mais il sera pas qualifié, puis les gens vont partir tout de suite. Donc, faut éviter. La dernière, c'est ne faire que réépingler des contenus tiers. Ou ne faire qu'épingler des photos. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais au démarrage. Donc, si la curation est bonne, si les contenus que vous épinglez sont bons, effectivement, vous allez avoir des abonnés, vous allez potentiellement avoir du trafic si vous glissez quelques-unes de vos photos. Mais en fait, ça ne servira pas vraiment d'objectif marketing, parce que Pinterest, c'est pas prioritairement, en tout cas, un lieu où on travaille la notoriété. On va plutôt y travailler du trafic, des ventes. Donc, faut vraiment avoir en tête qu'il faut que vous créez du contenu propre, en fait. Du contenu qui est vraiment basé sur vos contenus longs, sur vos produits, vos services, sur ce que vous proposez, sur votre activité, et qui sont optimisés pour la plateforme. Donc moi, je dirais que le minimum du minimum, c'est d'avoir au moins 30% de contenu à soi, et après, du coup, 70% de contenu épinglé. Et puis, plus Pinterest est important, et plus on a cette capacité à produire, et plus on tend vers du 50-50, voire inverser la tendance. Mais en tout cas, au moins avoir 30% de contenu que l'on crée nous-mêmes, quoi.
Ok, ça marche. Est-ce que tu nous as préparé une anecdote en lien avec le sujet du jour? Est-ce que tu as trouvé quelque chose à nous raconter?
Ouais, j'ai pensé à une anecdote qui est arrivée il y a pas si longtemps, parce que en introduction tu mentionnes le côté méconnaissance, en fait, de ce réseau social et de cet outil là. Du coup, en fait, il n'y a pas si longtemps, on avait été consulté par un, par un, voilà, par un prospect qui cherchait une agence pour refaire, pour refondre son animation social media. Donc c'est un client qui était présent sur plusieurs réseaux sociaux. Il y avait Pinterest entre autres, il y avait Instagram, il y avait d'autres réseaux. Et il cherchait une agence pour l'accompagner de manière globale. C'est un client dans un secteur où il y a vraiment un potentiel énorme sur Pinterest, parce que c'est le secteur du jardinage. On sait que ça cartonne, mais vraiment de ouf sur Pinterest. C'est aussi un client qui possédait un site informationnel, donc avec énormément de contenu informationnel. Et ils avaient vraiment toutes les clés en main pour cartonner sur la plateforme. Donc on a répondu du coup à cette consultation. On a franchement imaginé quelques formats très très bien conçus pour Pinterest. Vraiment quelques très beaux concepts dont on était très très fiers. Et en fait, bon, ce prospect a choisi de travailler avec une autre agence pour des raisons qui sont pas forcément celles-là. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques mois maintenant, effectivement, leur nouvelle stratégie social media, elle est en place, et qu'en fait, leur compte Pinterest continue de vivoter, parce qu'en fait, il n'est alimenté que très épisodiquement, et avec des visuels qui sont vraiment pas du tout adaptés. En fait, c'est des visuels qui sont repris d'autres réseaux sociaux, justement, qui sont repris de Facebook, qui sont repris d'Instagram, etc., et pas du tout pensés pour la plateforme. Donc, franchement...
C'est dommage.
C'est dommage, quoi. C'est dommage, parce qu'en plus, le contenu long, ils l'ont déjà, quoi. Enfin, ouais. C'est juste derrière du recyclage de contenu. Donc, c'est vraiment pas très long à faire. Mais ça montre une vraie méconnaissance de la plateforme, parce que quand nous, en tout cas, on a répondu à cette question-là, finalement, Pinterest, comme hyper stratégique, quoi. Mm. Limite avant même Instagram, en fait, dans les objectifs de la marque derrière, qui en fait voilà, c'est, enfin, du coup, ouais. C'est dommage, voilà, ça, et quelque part on se dit, mais mince, on aurait pu faire des trucs tellement chouettes, et au final, bah voilà, tant pis. Et là, on est vraiment dans la méconnaissance, ouais. Clairement. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette anecdote là
ça marche. Et ben super, je crois que c'est l'heure de la conclusion. Est-ce que tu nous as préparé une conclusion en trois mots-clés ou trois phrases à retenir ?
Alors, je me suis noté trois mots-clés, donc je vais déjà te les dire, et puis ensuite on verra pourquoi. Donc, le premier, c'est moteur de recherche. Le deuxième, c'est contenu long ou e-commerce. Et le troisième, c'est appât à clic ou contenu après. Prêt à consommer. Donc, le premier sur moteur de recherche, bon, bah voilà, c'est, on l'a dit en introduction, c'est bien penser que Pinterest, c'est un moteur de recherche et qu'il faut être dans une logique d'optimisation du référencement naturel, donc dans une logique de SEO, à la fois sur les aspects techniques et éditoriaux. Donc, ça, c'est voilà, essentiel. Ensuite, contenu long ou e-commerce, pour moi, c'est les deux points à garder en tête pour savoir si on a un intérêt à aller sur la plateforme ou pas. Est-ce qu'on est en capacité de produire des contenus longs ? Est-ce qu'on le fait déjà ? Si on le fait déjà, vous ne posez même pas la question, il faut y aller. Est-ce qu'on a cette capacité-là à produire des contenus longs ? Ou est-ce qu'on a un acteur e-commerce ? Et là, c'est pareil, il ne faut même pas vous poser la question, il faut y aller, quoi.
Ouais.
Et le dernier, c'est appât à clic ou contenu prêt à consommer. Ça, c'est vraiment sur l'aspect contenu. C'est vraiment ce qu'il faut, ce à quoi il faut penser au moment où on crée ces contenus. Au moment où on crée ses épingles. C'est les deux objectifs que doivent avoir nos contenus. Voilà. En fait, Pinterest, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Il faut avoir ces éléments-là en tête, ces guidelines-là en tête pour que ça fonctionne, en fait.
Ouais.
C'est tout. Mais une fois qu'on sait ça, voilà,
let's go.
Ça roule.
Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout et pour ta conclusion. Et j'espère que tu reviendras au micro du pod, peut-être pour le sujet de la nouvelle année prochaine, ou pour un prochain sujet Pinterest qui émergera peut-être.
Bah avec plaisir, écoute. Hein. Pas de souci, tu sais où me trouver.
Voilà, sur le bureau à côté de moi. Très bien. Eh ben, écoute, un petit coucou à Brian s'il passe par là.
Ouais.
Pour le tout premier épisode où il n'aura pas été au micro du pod.
J'espère avoir été à la hauteur pour le remplacer.
Ouais, c'est certain, c'est certain. Et puis, eh ben, moi, je vous dis bon été à toutes et à tous. Et on se retrouve à la rentrée pour un prochain épisode du pod. quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.